Dites, comment va votre digestion ? Si c'est le bazar dans votre ventre, vous le savez, votre quotidien peut être fortement impacté. Et vous n'êtes pas seul, car près de 9 millions de personnes seraient concernées par des troubles fonctionnels intestinaux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Notre partenaire aujourd'hui, le complément alimentaire Alflorex Plus, vous permet de retrouver un confort digestif et l'équilibre de votre flore intestinale. Ceci grâce notamment à la souche brevetée Bifidobacterium longum 356-24 qui contribue à l'équilibre de la flore intestinale, ainsi qu'à la présence de calcium qui favorise le fonctionnement normal des enzymes digestives. 85% des personnes déclarent se sentir mieux avec la prise d'Alflorex Plus et c'est l'un des probiotiques les plus recommandés pour la sphère digestive. Et pourquoi pas vous ? Le complément alimentaire Alflorex Plus est disponible en pharmacie et parapharmacie. Merci à eux de soutenir le podcast et place à votre épisode. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possible sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 108, dans lequel nous allons parler de polymorphisme génétique et de leurs conséquences sur la santé. Alors je sais, le titre peut faire un petit peu peur, et effectivement on va rentrer dans des choses un petit peu complexes, mais promis, je vais essayer de vous rendre ça simple et intelligible, et on va donc parler effectivement des polymorphismes génétiques. Bon alors c'est pas non plus normalement une énorme surprise pour vous, si vous avez écouté les épisodes sur le FUT2, je vous ai déjà parlé effectivement des polymorphismes génétiques. Donc normalement vous savez un petit peu ce que c'est, mais au cas où, je vais vous remettre un petit peu les bases. Donc qu'est-ce que c'est un polymorphisme ? Un polymorphisme, c'est une expression différente d'un gène. En gros, globalement, on a tous les mêmes gènes, mais ils s'expriment différemment selon les personnes. C'est d'ailleurs pour ça que certains ont les yeux bleus, d'autres ont les yeux verts ou marrons ou d'autres couleurs. En général, c'est quand même les trois qui reviennent le plus. Donc dans le genre humain, en tout cas, on a tous les mêmes gènes. C'est pour ça qu'on se ressemble quand même tous plus ou moins en termes de structure physique et de fonctionnement au niveau des organes, etc. Mais les gènes, ils s'expriment différemment. Et ça, c'est la beauté aussi de la chose. C'est pour ça qu'on est quand même tous différents. On se ressemble, mais on est tous différents. Et donc c'est pour ça qu'il y a des variations que l'on voit, nous, au niveau physique. Mais c'est pareil au niveau de la santé. Il y a des polymorphismes, donc des expressions différentes des gènes qui font que nos organes peuvent fonctionner légèrement différemment d'une autre personne. Il faut savoir que ces polymorphismes, il en existe beaucoup et ils ont plus ou moins de conséquences. Donc là, on va en voir un petit peu quelques-uns. L'idée, c'est pas du tout de vous faire une liste exhaustive parce que là, on est parti pour un podcast de 3 semaines à peu près. Et puis, surtout, on va s'intéresser à ceux qui nous concernent le plus puisqu'ils vont influencer effectivement un peu plus la digestion. Donc l'objectif de cet épisode, c'est pas du tout de vous faire un cours magistral sur les polymorphismes génétiques, c'est plus de vous expliquer un petit peu ce que c'est, de vous donner un petit peu des indications sur les principaux polymorphismes génétiques, mais ensuite après, bien sûr, ce sera à vous d'aller creuser si vous le souhaitez. Donc au niveau des polymorphismes génétiques, on peut en citer quelques-uns, dont mon préféré, clairement, celui dont je vous parle le plus, qui est ce fameux FUT2, qui est un polymorphisme qui implique que selon l'expression du gène, une personne va avoir un mucus de plus ou moins bonne qualité. Donc pour rappel, si vous n'avez pas écouté les épisodes sur le FUT2, je vous le refais rapidement. Il peut y avoir 3 profils, donc 3 façons pour le gène de s'exprimer. Un profil que l'on appelle sécréteur, donc là c'est les personnes qui n'ont aucun problème de mucus, a priori en tout cas, les gènes font que les gènes vont s'exprimer d'une façon qui va faire que le mucus va être sécrété de la bonne façon, donc ça c'est tout bon. Ensuite il y a le profil sécréteur hétérozygote. Donc là, ça veut dire que la personne, elle est entre les deux. C'est-à-dire que elle a un gène, parce qu'on a deux gènes à chaque fois, un gène qui s'exprime bien et un autre qui s'exprime pas super bien. Donc bah, ça veut dire que le mucus sera de qualité moyenne. Donc là, il faut voir au cas par cas en fonction des conséquences. Et puis le troisième, c'est le profil non sécréteur. Donc là, ça veut dire que la personne, elle a les deux gènes qui contiennent ce polymorphisme génétique qui fait que le gène va moins bien s'exprimer, on va dire. En tout cas, s'exprimer d'une façon qui fait que la personne va sécréter moins de mucus, notamment intestinal, mais ça touche tous les mucus du corps. Hein. Et donc, bah, s'il y a moins de mucus, ça implique forcément une moins bonne digestion, puisque moins bonne protection de la muqueuse, moins bon microbiote, etc., etc. Je vous refais pas toute l'histoire, puisque j'en parle dans les épisodes sur le FUT2. Si vous les avez pas écoutés, je vous remets le lien vers ces épisodes en description de celui-ci. Mais voilà, moi celui-ci, c'est le premier dont j'ai entendu parler, ce fameux FUT2. C'est la première fois que j'ai entendu parler vraiment des polymorphismes génétiques, en tout cas avec ces conséquences-là. Et celui-ci, il est quand même important, puisqu'il faut savoir que 20% de la population, alors je crois que c'est de la population caucasienne, est profil non sécréteur. Donc ça fait quand même beaucoup de personnes finalement, hein, 20%. Donc ça vaut le coup de creuser. Voilà, c'est pareil, je vous renvoie vers les épisodes sur le FUT2 si vous souhaitez en savoir plus. Mais il faut savoir qu'un autre polymorphisme que l'on peut avoir, c'est au niveau de la détoxification. Donc au niveau du fonctionnement du foie, puisque c'est le foie, notre principal organe de détoxification. Eh bien, il y a plusieurs polymorphismes qui peuvent intervenir et qui font qu'on ne détoxifie pas de la même façon les médicaments, les toxines, mais aussi les hormones. Donc c'est pour ça aussi que, par exemple, si on prend deux personnes, qu'on leur donne la même dose de médicaments, elles ne vont pas réagir de la même façon. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont notamment beaucoup d'effets secondaires avec certains médicaments et d'autres qui n'auront quasiment pas d'effets secondaires avec le même médicament. Bah, c'est une des raisons, il y en a plusieurs, mais une de ces raisons-là, c'est effectivement les polymorphismes génétiques qui fait qu'on va pas tous détoxifier de la même façon les médicaments, donc on va pas tous les utiliser de la même façon et les éliminer de la même façon. Donc ils n'auront pas la même action chez tout le monde. Donc idéalement, il faudrait, dans une médecine peut-être du futur, il faudrait qu'on sache tous nos polymorphismes pour pouvoir justement adapter en fonction de ça, la dose de médicaments qu'on va prendre, etc. Voilà, ça ce serait un petit peu l'idéal, peut-être ça arrivera un jour, on ne sait jamais. Donc au niveau de la détoxification, je vous ai dit effectivement, bah, il y a notamment les médicaments, les toxines, mais aussi les hormones. Et par exemple, pour les hormones et notamment les œstrogènes, il existe en gros à peu près 3 voies de détoxification des œstrogènes. Une, on va dire, qui est parfaite, c'est-à-dire que les œstrogènes sont bien éliminés par le foie et ensuite ils sont inactifs et donc ils partent dans les selles notamment. Il y a une voie qui est un peu moyenne. Vous voyez, en général, il y a toujours 3 voies. Une qui est géniale, une qui est pourrie et une au milieu. Hein, si je caricature, c'est un peu ça. C'est comme un peu pour le FUT2. Donc, il y a une voie qui est moyenne et il y a une voie qui, elle, est plus mauvaise. C'est-à-dire qu'on considère qu'elle est toxique. Parce qu'en fait, dans la détoxification, il y a un petit peu un bug qui fait que, au lieu d'éliminer les œstrogènes, le foie va créer des œstrogènes qui vont être finalement encore plus actifs que la molécule de base. Donc c'est comme si, comment vous trouvez une petite métaphore filée un peu ? Si on prend une pile, par exemple une pile qui est normalement vide, déchargée, il n'y a plus de batterie, normalement vous la mettez au recyclage, et donc au recyclage, il désactive la pile et il l'élimine. En gros, voilà, ma métaphore est un peu bancale, mais essayez de me suivre. Et donc si jamais le processus de recyclage fonctionne moins bien, il se peut que votre pile, elle soit en fait rechargée, on va dire, mais rechargée à une puissance qui est beaucoup trop forte pour elle, et donc cette pile, elle devient dangereuse, parce que, imaginons, si vous la branchez dans un appareil, elle va faire cramer l'appareil. Voilà, vous me suivez à peu près. Sachez que je ne prévois pas mes métaphores à l'avance, donc c'est totalement de l'improvisation. Ça explique ce que ça explique. Donc pour les œstrogènes, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que la voie de détoxification qui, on va dire, est mauvaise, eh bien, elle crée des molécules qui sont encore plus actives que les œstrogènes de base. Donc elle crée un environnement qui va être plutôt hyper-œstrogénique, hyper-œstrogénisant, on va dire, puisque bah, plutôt que d'éliminer le déchet, au contraire, elle le remet dans la circulation, et un déchet qui est encore plus, efficace, mais non, qui est encore plus actif, on va dire, que celui d'avant. Alors que normalement, le corps, il pensait qu'il l'avait éliminé. Donc voyez un peu le beans que ça peut créer. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est vrai que la détoxification des œstrogènes, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, notamment pour des problématiques hormonales, hein, comme l'endométriose, comme le SOPK, comme plein d'autres problématiques liées de près ou loin aux hormones. Donc ça, c'est quand même un point qui est important, puisque bah, en fait, d'une personne à l'autre, soit la personne va bien détoxifier ses œstrogènes, donc tout va bien, soit finalement elle se crée elle-même une espèce de toxicité juste parce que son foie ne détoxifie pas bien les œstrogènes, donc elle se crée un environnement plutôt à risque d'hyperœstrogénie. Heureusement, il existe des solutions. Si on est dans ce cadre, par exemple, de mauvaise détoxification des œstrogènes, on peut prendre des compléments alimentaires ou consommer en plus grande quantité certains aliments qui vont aider à mieux détoxifier tout ça. Mais bon, il faut le savoir, quoi. Si on le sait pas, bah forcément, on peut pas agir dessus. Donc voilà, ça, c'était un exemple un peu de polymorphisme qui peut impacter effectivement la détoxification. Une autre situation qui est aussi impactée par les polymorphismes, c'est la méthylation. Alors la méthylation, c'est un mécanisme complexe que je vais pas essayer de vous expliquer ici parce que franchement, je suis pas sûre moi-même d'avoir vraiment bien compris ce que c'était que ce mécanisme, et pourtant j'ai passé des heures dessus, vraiment. Mais en gros, c'est un mécanisme complexe qui intervient dans beaucoup de mécanismes du corps et qui permet notamment de rendre certaines vitamines plus biodisponibles. Il permet aussi de détoxifier certains composés, etc. Enfin, vraiment, la méthylation, ça intervient dans quasiment tous les mécanismes de santé. Et aujourd'hui, il existe beaucoup de polymorphismes qui font que la méthylation, elle se fait pas super bien. Donc ça, c'est pareil, c'est intéressant de le mesurer parce qu'en fonction de ça, on peut agir dessus, mais si on le sait pas, bah on peut pas agir dessus. Et sachant que ça, il n'y a pas forcément de symptômes évidents, vous voyez, il n'y a pas forcément un truc où on se dit « Ah, si tu as tel symptôme, ça veut dire que tu as un polymorphisme ». Non, c'est des choses qu'il faut malheureusement tester et aller voir au niveau génétique ce qui se passe pour voir si effectivement bah, on a ce polymorphisme et dans quelles conditions et quelles sont les conséquences. Donc voilà, la méthylation, je vous en dis pas beaucoup plus, parce qu'encore une fois, c'est hyper complexe, et pour être tout à fait honnête, moi-même, je me mélange les pinceaux avec tout ça, mais en tout cas, voilà, il existe plusieurs voies, pareil, comme pour la détoxification, il existe plusieurs voies de méthylation, et donc en fonction des polymorphismes, ça part dans ces différentes voies, et donc ça se fait plus ou moins bien, et ça a des grosses conséquences à beaucoup de niveaux et sur beaucoup de systèmes de santé. Et enfin, un autre polymorphisme, encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, mais un qui est quand même important et dont je vous ai déjà parlé, celui-ci, c'est dans la transformation des oméga-3 en EPA et DHA. Ça se fait via une enzyme qu'on appelle la delta-6 désaturase, et il se trouve qu'il existe beaucoup de polymorphismes sur cette delta-6 désaturase, elle n'est pas facile à dire celle-ci, qui font qu'elle fonctionne plus ou moins bien. Et chez certaines personnes, elle fonctionne vraiment au ralenti. Donc ça veut dire que ces personnes-là, elles vont consommer des oméga-3. Et pour rappel, je vous refais le petit schéma, petite parenthèse, les oméga-3, donc c'est une forme, on va dire, et idéalement le corps va les découper ensuite en notamment des EPA et des DHA, qui sont les molécules, on va dire, actives des oméga-3. Il n'y a pas que ceux-là, hein, mais c'est les deux en général dont on manque le plus, et c'est celles qui vont nous intéresser le plus. Et donc cette transformation des oméga-3 en EPA DHA, donc elle se fait via la delta-6 désaturase, et quand cette delta-6 désaturase elle fonctionne au ralenti, bah, la personne elle va consommer plein d'oméga-3, sauf qu'elle va avoir beaucoup de mal à les transformer en EPA et DHA. Donc ça veut dire que le corps il va avoir beaucoup de mal à les utiliser parce que le corps ne peut pas utiliser une molécule d'oméga 3. Il doit la découper pour pouvoir l'utiliser ensuite, prendre les petits morceaux dont il a besoin, notamment les petits morceaux comme le PA et le DHA. Donc si cette delta 6 désaturase fonctionne au ralenti, bah c'est dommage parce que la personne elle aura beau consommer des oméga 3, et encore faut-il qu'elle consomme des oméga 3, elle va quasiment pas pouvoir les assimiler puisque elle va pas pouvoir les découper comme il faut et les utiliser comme elle a besoin. Donc ça c'est pareil, il existe des moyens de contourner un petit peu tout ça, notamment par exemple de prendre directement des EPA et des DHA, mais tout ça il faut le savoir. Donc c'est pareil, idéalement il vaut mieux le mesurer quand c'est possible pour savoir un petit peu où on en est. Donc comment on fait justement pour tester tout ça, comment on fait pour savoir un petit peu nos polymorphismes génétiques? En général, on le teste soit via un prélèvement sanguin ou un prélèvement de cellules. Par exemple, on va frotter comme un petit coton-tige à l'intérieur de la joue pour prélever quelques cellules. Et ensuite, bah, au niveau du labo, ils vont carrément rentrer dans notre ADN. Donc il faut un consentement signé, etc. C'est quand même pas rien, puisque là, les gens vont aller voir ce qui se passe dans votre ADN. Et l'ADN, c'est quand même notre carte d'identité. Et ensuite, bah, ils vont vous dire, bah oui, votre gène, il s'exprime de telle façon, etc. Par exemple, pour la détoxification des œstrogènes, là, on va mesurer carrément les résultats de détoxification dans les urines, puisque du coup, là, les œstrogènes vont être éliminés via les urines. Donc, on va mesurer les premières urines du matin, on mesure combien il y a de molécules de telle transformation, telle transformation, telle transformation, et on fait un peu le ratio et on voit vers quelle voie ça part. Donc ça, c'est un peu une exception, on va dire, mais sinon, en général, général, ça se teste via l'ADN. Bon, il faut savoir par contre que ça coûte un petit billet, donc soit vous pouvez faire tous vos polymorphismes, mais dans ce cas-là, je sais même pas combien ça coûte, mais je pense que c'est plusieurs milliers d'euros. Et je connais pas de labo qui fait ça, je pense qu'il doit y en avoir, mais peut-être pas en France. Ou alors, vous testez vraiment ceux qui sont vraiment importants pour vous en fonction de vos problématiques, justement, en fonction de vous, vos symptômes, vos risques aussi, en fonction des antécédents familiaux, etc. Voilà. Donc par exemple pour la digestion, bah, le FUT2 c'est un de ceux qui nous intéresse le plus, mais il en existe d'autres qui sont aussi importants pour la digestion. Voilà, c'est vraiment à faire un petit peu au cas par cas. J'espère en tout cas que c'est un petit peu plus clair pour vous tous ces polymorphismes et leurs conséquences sur la santé, sur la digestion, mais pas que. Vous aurez compris qu'ils peuvent impacter vraiment plein de mécanismes, on va dire, de santé. Et puis bah, si vous voulez en savoir plus sur les troubles digestifs et comment trouver de vraies solutions, bah, je vous rappelle que je suis en train de créer une formation à destination de toutes les personnes qui ont des troubles digestifs et qui souhaitent justement bah, mieux comprendre ce qui se cache derrière pour trouver de vraies solutions et enfin avoir des réponses. Donc vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour recevoir toutes les informations en avant-première et je réserve une petite surprise aux inscrits. Je vous mets le lien en description de cet épisode, en sachant que dans cette formation, bah, on abordera toutes les causes des troubles digestifs, les polymorphismes justement qui nous intéressent pour la digestion, mais aussi les solutions. On abordera la question, est-ce qu'il faut manger sans FODMAP, comment limiter les ballonnements, comment savoir si son microbiote et déséquilibré, etc., etc. Je vais dévoiler le programme de cette formation aux inscrits à la liste d'attente dans très peu de temps, donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Je m'arrête là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura paru à peu près clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram ou par mail, je vous remets tout ça en description de l'épisode. Je suis toujours ravie d'avoir vos retours sur les épisodes et de répondre à vos questions aussi si vous en avez. Et puis s'il y a des thématiques que vous souhaitez que j'aborde dans le podcast dans les prochains épisodes, et bien pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et à me dire un petit peu tout ça et je verrai ce que je peux faire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.